Rebonjour tout le monde! Comme toujours, très contente de vous avoir avec nous pour ce nouvel épisode. Je suis toujours accompagnée de mon ami Eric.
Bonjour.
Aujourd'hui, je vais commencer tout de suite en vous disant que l'épisode est assez lourd. C'est entre autres pourquoi j'ai décidé de le diviser en deux parties. Honnêtement, c'est l'épisode qui m'a demandé le plus de temps parce que j'ai fait énormément de recherches et il y avait trop d'informations que j'avais envie de vous partager pour que ça rentre de façon réaliste dans un seul épisode de 20 minutes. Donc, aujourd'hui, c'est la partie 1. La semaine prochaine, vous aurez la partie 2. Aussi, je préfère vous avertir que l'épisode est un peu plus graphique que les précédents. C'est-à-dire que je dois donner des détails souvent difficiles à entendre dans le but de bien comprendre tout le portrait de l'affaire. Vous allez comprendre que même les détails les plus sordides sont donnés pour une raison qu'on va avoir terminée. Et je tiens à dire que, comme le nom de l'épisode l'indique, on va parler de crimes commis sur des enfants. Alors je préfère avertir les auditeurs un peu plus sensibles. C'est un gros épisode qui se penche sur une des périodes les plus sombres en termes de disparition d'enfants au Québec, soit le mois de novembre 1984. Aujourd'hui, on parle de Wilton Lubin et Sébastien Métivier. De disparition d'enfants, on a tous une image, une personne qui nous vient en tête. Souvent, ça dépend de notre âge, hein? Tu sais, selon l'âge qu'on a, on pense au premier cas qu'on a suivi quand on était assez vieux pour comprendre ce que les médias étaient en train de nous raconter. Mais ça peut dépendre de quelle région on vient aussi, ou si on connaissait la personne, bien entendu. Toi, Eric, à qui tu penses quand je te parle de disparition d'enfants? C'est quoi le premier cas dont tu te rappelles, celui qui te fait réaliser ce qui pouvait arriver à des enfants?
Je te dirais, il y en a deux. Jolène Riando, j'étais assez vieux pour comprendre un peu ce qui se passait, ils en ont beaucoup parlé. Puis je me rappelle aussi que ma mère, ça l'avait beaucoup affecté, fait que ça m'avait peut-être un peu plus marqué. Puis sinon, ben Cédrica Provencher. Je comprenais beaucoup plus la gravité de la situation avec cet enlèvement-là.
Moi aussi, Cédrica Provencher, assurément. Surtout que ça avait été un cas extrêmement médiatisé à une époque où les corps policiers avaient des ressources et des manières de partager l'information rapidement. Mais malheureusement, ça n'a pas toujours été aussi bien rodé, comme on dit. En fait, plein de nouvelles procédures plus efficaces ont été mises en place suite aux événements dont on va parler aujourd'hui. Le 1er novembre 1984 en soirée, deux garçons qui habitaient le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal ont disparu. Sébastien Métivier, 8 ans, et Wilton Lubin, 12 ans. On n'a pas beaucoup d'informations sur Wilton, malheureusement. Comment il était comme petit garçon, je parle. À l'exception du fait qu'il était malade et qu'il devait prendre des médicaments régulièrement pour maintenir sa santé. J'aurais aimé pouvoir vous en dire un peu plus sur lui. Mais les parents de Wilton ont toujours été très discrets avec les médias, du moins selon ce que j'ai pu conclure de mes recherches. Et c'est tout à fait correct, évidemment, là, tout le monde vit son deuil différemment. Je le mentionne seulement pour vous dire que c'est pour ça que je le connais pas beaucoup. De son côté, la mère de Sébastien, Christiane Sirois, a été très présente dans les médias pour parler de son fils. Elle le décrit comme un garçon poli, galant, qui avait beaucoup de prétendants et beaucoup d'amis. Wilton et Sébastien étaient voisins. Ils habitaient à quelques maisons de distance, et ce soir-là, ils étaient allés à un cours de bricolage dans un sous-sol d'église à environ 100 pieds de leur résidence, l'église Très Saint-Nom de Jésus sur la rue Adam. Dans un épisode consacré à Sébastien dans l'émission documentaire « Où es-tu? », j'ai vu la rue sur laquelle ils habitaient avec l'église qui se trouve au bout, et si on est devant leur résidence, on voit carrément l'église, elle est super proche. La mère de Sébastien dit que quand il allait sur le balcon de son appartement, elle les voyait sortir du sous-sol de l'église. Cependant, exceptionnellement, ce soir-là, il était allé chez la coiffeuse. C'était donc son papa, le grand-père de Sébastien, qui était à la maison avec lui et Mélanie, sa petite sœur de 7 ans. C'était pas le papa de Sébastien qui était là avec les enfants, car Christiane et lui venaient de divorcer très récemment, donc ils habitaient séparément. Après son rendez-vous, quand Christiane est revenue à la maison, Mélanie dormait, mais Sébastien, lui, n'était pas rentré. C'est là qu'elle s'est mise à paniquer et a appelé tous les amis de son fils pour savoir s'il était avec eux, parce que c'était inhabituel qu'il ne soit pas encore revenu à cette heure-là. Quand elle a réalisé que Sébastien n'était avec personne et qu'il n'était toujours pas rentré, elle a appelé la police. Il était environ 23h30. Les policiers se sont rendus chez eux pour poser des questions, prendre les informations en note, etc. À ce moment-là, Christiane ne savait pas encore que Wilton était disparu en même temps que son fils. C'est vers 1h30, selon ce que Christiane a dit dans une entrevue qu'elle a entendue sur la radio portative de la police, l'annonce de la disparition de Wilton. À ce moment-là, les policiers ont compris que les deux garçons étaient probablement disparus ensemble. Malheureusement, dès le départ, les policiers ont cru que les deux garçons avaient fugué. Et ce, même si Christiane a toujours répété avec véhémence que c'était impossible. Et on se rappelle qu'ils avaient 8 et 12 ans. Il me semble que c'est vraiment jeune pour fuguer, non?
Ouais, puis à cet âge-là, tu fugues pas ben loin rapidement, là. À cette heure-là, t'as pas mal peur, puis tu retournes à la maison finalement.
Ben, il me semble.
Mais est-ce que Sébastien était malheureux? Est-ce que quelque chose clochait dans sa vie? Parce que pour fuguer de même, ça prend une raison, là.
Ouais, en effet, et dans le cas qui nous occupe, puis il n'y en avait pas vraiment. Du moins, certainement pas dans la tête de Christiane. Oui, elle était récemment divorcée, mais le papa habitait tout proche, Sébastien était bien dans le nouvel appartement, Christiane dit qu'ils étaient réellement heureux, et que Sébastien était fidèle à lui-même, un petit garçon de 8 ans de bonne humeur. Moi, je pense que c'est parce qu'ils étaient deux que les policiers ont pensé ça, j'en suis persuadée. Je pense qu'ils n'ont pas cru que quelque chose de macabre aurait pu leur arriver aux deux en même temps. N'empêche que le fait de penser qu'ils ont fugué a nécessairement influencé la façon de voir tout ce dossier pour la police, surtout au début de l'enquête. Toujours dans l'épisode de « Où es-tu? », le sergent Patrick Berthelot, coordonnateur des disparitions et des enlèvements à la Sûreté du Québec, dit, et je le cite, « 47% des enfants qui disparaissent meurent dans la première heure et 76% meurent dans les 3 heures suivant la disparition.
Oh. »
Donc, quand on dit que chaque seconde compte, c'est pas de l'exagération, là, c'est très réel. Et probablement que le fait d'imaginer que Sébastien Wilton ait fugué, ben, ça fait perdre un temps précieux à l'enquête. Mais Christiane était une mère déterminée comme on en voit peu. Et elle n'avait pas dit son dernier mot. Elle cognait aux portes, mettait des affiches partout, donnait des entrevues, posait des questions. Bref, elle se faisait entendre. Et elle expliquait à tout le monde que son garçon, il n'avait pas fugué, qu'il avait été enlevé. Sébastien a même été le premier enfant disparu au Québec à se retrouver sur les pintes de lait. Une pratique qui était courante aux États-Unis, mais pas ici. De nos jours, on a le système de l'alerte Amber dont on a parlé dans l'épisode sur Ariel Jeffrey Kouakou, entre autres. Mais il faut savoir que le Québec utilise ce programme seulement depuis 2003. Évidemment, c'est une méthode super efficace qui a été testée et prouvée de nombreuses fois, mais au temps de Sébastien Wilton, il fallait procéder autrement. Et on n'avait pas les réseaux sociaux non plus, qui nous offrent désormais l'opportunité de répandre l'information vite et partout. Christiane a travaillé très fort pour faire valoir son point, et je la trouve incroyable. Malheureusement, les gens ont surtout commencé à la croire un mois plus tard, le 2 décembre 1984, lorsque le corps de Wilton a été retrouvé. C'est un homme qui se rendait à l'île Charon sur la rive sud de Montréal qui a trouvé le corps. Le garçon avait été poignardé dans la poitrine, étranglé, puis on lui avait tranché la gorge. Ce qu'on comprend, c'est qu'il aurait été jeté dans les eaux du fleuve Saint-Laurent et qu'il se serait retrouvé sur cette berge un mois plus tard. Je fais une petite parenthèse ici pour expliquer que l'île Charon, c'est l'autre bord du fleuve, mais c'est vis-à-vis le quartier Hochelaga-Maisonneuve pratiquement. Dans un extrait d'un reportage daté de 2015 que j'ai trouvé sur le site web de ADR.tv, on parle du fait que Wilton se serait débattu. J'imagine que l'autopsie a démontré des marques de défense ou quelque chose comme ça. On se rappelle aussi qu'il était un peu plus vieux, il avait quand même 12 ans. À 12 ans, t'es quand même un peu conscient du danger et tu vas essayer de te défendre si la situation te le permet. Et il était assez grand aussi, il mesurait 5 pieds selon quelques sources. Je pense que tu comprendras qu'à ce moment-là, tout le monde avait très envie de retrouver Sébastien. Et personne ne doutait plus de Christiane qui disait depuis le début qu'il n'était pas parti de leur plein gré. Les policiers ont redoublé d'ardeur et recommencé à fouiller partout. Ils ont également commencé à fouiller dans le coin où on avait trouvé Wilton, dans l'espoir de retrouver Sébastien, ou du moins un indice qui nous mènerait au bon endroit. Cependant, en date d'aujourd'hui en 2021, on n'a toujours rien trouvé qui appartenait à Sébastien. Même pas une chaussure, un morceau de vêtement, rien. Sa disparition est encore à ce jour un mystère total. Je ne peux pas m'imaginer le calvaire qu'ont dû vivre les parents de Wilton pendant le mois qu'ils étaient à sa recherche, ni comment ils ont dû se sentir quand ils ont appris la nouvelle. Je veux dire, perdre son enfant, c'est atroce. Mais le retrouver dans l'eau, battu, maltraité, c'est insensé. Surtout qu'il était impossible de savoir exactement ce qui s'était passé. Et j'ai aussi beaucoup de compassion pour les parents de Sébastien qui, encore aujourd'hui, se demandent s'il a subi le même traitement, sans pouvoir commencer leur deuil réellement, puisqu'ils n'ont pas encore pu le ramener à la maison.
Ce que tu viens de nous raconter, c'est vraiment horrible, puis j'ai plein de questions, on dirait, sans réponse en ce moment. Tu disais que, dans le fond, les deux enfants avaient été, le soir même, à une activité de bricolage qui était à comme moins de 100 pieds de la maison?
Oui, exactement.
De ce que tu as trouvé, est-ce qu'on sait s'ils se sont rendus à l'église, finalement?
Il semble que oui, car Christiane mentionne dans certaines entrevues que c'est les amis des garçons qui avaient appris aux policiers que Sébastien et Wilton étaient sortis du cours ensemble. Donc, j'en conclus qu'ils ont assisté au cours. Dans quelques sources aussi, dont le site Historiquement Logique, qui a beaucoup écrit sur cet événement, on mentionne que les garçons auraient été aperçus ce soir-là dans le coin du stade olympique, ce qui n'était pas impossible puisque, semble-t-il, Wilton avait des amis dans le coin. Mais dans tout ce que j'ai vu avec Christiane en entrevue, elle ne mentionne jamais ce fait quand elle relate la chronologie des événements. Donc je sais vraiment pas si c'est vrai ou pas, mais je le mentionne quand même parce que je l'ai lu. J'ai cru comprendre que ce serait après le cours que les garçons se seraient rendus là, mais c'est dur à dire. Il est vrai que, exceptionnellement, Sébastien se faisait garder par son grand-père, alors peut-être qu'il s'est dit qu'il y avait un peu plus de temps pour jouer avant de rentrer, puisque sa mère n'était pas là, et qu'il a décidé de suivre Wilton. Ce dernier avait quand même 4 ans de plus, il avait peut-être plus de permission et il pouvait rentrer un peu plus tard. Mais tout ça, ce sont des spéculations, là. On va y revenir un peu plus tard quand même.
Mais je comprends pas, là. Comment est-ce que deux garçons de 8 et 12 ans, dont un qui fait quand même 5 pieds, donc assez grand pour son âge, peuvent disparaître dans le contexte où ils sortent d'un cours avec plein d'autres enfants à côté de leur domicile? Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans cette ligne du temps-là.
Éric, j'aimerais tellement ça t'en dire plus, mais tu te poses la même question que tout le reste de la population du Québec qui a entendu parler de leur disparition. C'est incompréhensible. Personnellement, je me dis deux choses. Soit ils sont partis avec quelqu'un qu'ils connaissaient, et je t'avoue avoir une grosse préférence pour cette option, soit les ravisseurs ont frappé au moment parfait, commis le crime parfait, et personne n'a rien vu.
As-tu bien dit « les ravisseurs » au pluriel?
Ben, si c'était un ravisseur, il a fallu qu'ils trouvent un stratagème élaboré pour attirer les garçons dans sa voiture ou sa maison ou autre.
En effet.
Car à l'âge qu'ils avaient, tu te laisses pas berner aussi facilement, il me semble. Et s'il était seul et qu'il a réussi à les attirer, il a aussi fallu qu'il trouve une façon seule de les maîtriser. Si c'était les ravisseurs, ce serait déjà plus probable qu'ils aient pu les attraper, non? Enfin bref, je pourrais émettre des hypothèses comme ça toute la nuit, mais la réalité, c'est qu'on ignore ce qui peut leur arriver ce jour-là. Une chose aussi que la mère de Sébastien a dit à l'animatrice Marie-Claude Barrette dans « Où es-tu? » et qui m'a vraiment marquée, c'est que 7 jours après la disparition de son fils, elle aurait reçu un appel. Au départ, elle a cru à une mauvaise blague parce qu'elle entendait juste un enfant pleurer au bout du fil. Mais après un certain temps, l'enfant a dit salut, puis a raccroché. Christiane dit qu'à ce moment-là, elle savait que c'était Sébastien. Dans une entrevue réalisée en 2014 avec ADR.TV, Christiane a dit qu'une semaine avant l'enlèvement, le papa de Sébastien, qui, on se le rappelle, n'habitait plus avec eux, est arrivé complètement hystérique chez elle en disant qu'il avait reçu un appel d'un parfait inconnu qui lui disait qu'il allait arriver quelque chose aux enfants.
Ah.
Christiane dit qu'il était vraiment dans tous ses états, évidemment on le comprend, mais qu'il ne connaissait pas la personne qu'il avait eue au bout du fil. Quand on connaît la suite de l'histoire, cet appel prend un tout autre sens, disons. En 1984, ils n'avaient pas toute la technologie nécessaire pour retracer tous les appels. De toute façon, j'ignore s'ils ont même signalé l'incident. Honnêtement, sachant ce qui est arrivé, c'est facile de sortir les « j'aurais donc dû », mais sur le coup, je sais pas si moi, à leur place, je l'aurais fait. J'aurais simplement laissé tomber en me disant que c'était une très mauvaise blague. De mauvais goût, certes, là. Mais bon, je voulais le dire parce que qui sait ce qui est important ou pas dans une enquête, hein? La sœur de Sébastien a dit dans cette même vidéo qu'elle avait croisé Sébastien ce soir-là à l'église avant son cours et qu'il avait l'air inquiet, mais qu'il n'avait pas voulu lui en parler. C'est fou comment même une enfant de 7 ans peut sentir ces choses-là. Mélanie et son frère étaient inséparables, ils étaient toujours ensemble. Elle a expliqué à plusieurs reprises dans des entrevues que sa personnalité et sa façon de voir la vie avaient changé ce jour-là, et qu'elle avait dû vivre toute sa vie avec cette immense perte, sans avoir la chance d'avoir des réponses aux nombreuses questions qu'elle se posait sur ce qui est arrivé. Dans un article du journal Métro publié en 2019, donc 35 ans après les événements, Christiane a expliqué que, comme Monique Dalcourt, la mère de Yannick dont on a parlé dans le premier épisode, elle s'est battue pour essayer d'obtenir le statut de victime d'actes criminels aux yeux de l'IVAC, mais sans succès. Dans ce même article, elle a dit, je la cite, « Depuis 35 ans, je survis. C'est comme un handicapé qui vit avec son handicap. Moi, je suis handicapée de mon enfant. » L'organisme Enfants Retour qui accompagne les familles dont leur enfant a disparu a d'ailleurs été créé en mai 1985 dans la foulée de ces événements tragiques. Un petit baume sur le cœur des familles endeuillées. Et un organisme hyper important qui existe encore aujourd'hui et qui fait de belles choses pour les victimes et leurs proches. Plus de 30 ans plus tard, Christiane et sa fille Mélanie posent encore des affiches un peu partout à Montréal. Ensemble, elles ont fondé l'œuvre de charité Les Amis de Sébastien, qui souhaitent venir en aide aux familles qui ont vécu un drame comme le leur. Elles n'ont jamais arrêté de le chercher et de se battre pour se faire entendre et honorer sa mémoire. Le 1er novembre 2018, la Ville de Montréal a dévoilé une plaque commémorative au Parc Morgan dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à la mémoire de Sébastien et Wilton. Dans un article du Journal de Montréal paru quelques jours avant l'événement, une dame qui était à l'école primaire avec Sébastien, Linda Ann Watkin Cassidy, explique qu'elle a offert gratuitement un bureau à l'œuvre de charité de Christiane et Mélanie. Parce que, et je cite, « Sébastien Métivier était un des seuls enfants à la défendre quand il se faisait importuner par les autres élèves.
Oh. »
À ce stade-ci de l'épisode, la question que tout le monde se pose, c'est « Mais qui? Qui aurait pu faire une chose pareille? Qui était suspect dans cette histoire? Qui est le monstre derrière cette tragédie? Inquiétez-vous pas, on va en parler. » Mais comme c'est un autre épisode en soi, on va en parler la semaine prochaine. On va également parler de d'autres victimes, dont le jeune Maurice Vien, qui est un incontournable quand on parle de Wilton et Sébastien.
Maurice Vien, on parle d'un autre enlèvement, là? À Montréal?
Oui, et il n'y a pas eu lieu n'importe quand. Maurice a été enlevé le 1er novembre 1984, soit le même jour que Wilton et Sébastien.
Tu décides de sortir l'information à ce point-ci?
Ouais, je sais, ça semble étrange, mais c'était voulu. En fait, je voulais commencer en parlant de Sébastien et Wilton parce que ce sont les seuls qu'on peut réellement lier ensemble, puisqu'ils ont disparu ensemble le même soir du même endroit. C'était certain que j'allais parler de Maurice, le contraire aurait été impensable. Mais je voulais bien expliquer chacune des histoires parce qu'elles sont toutes importantes. Et c'est pour ça que je vais prendre le temps de parler de Maurice dans le prochain épisode. Ensuite, on va parler des potentiels suspects dans tous ces dossiers. Merci d'avoir été avec nous pour écouter les histoires de Wilton et Sébastien. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'épisode d'aujourd'hui. Évidemment, si vous pensez avoir une information pertinente sur un de ces dossiers, contactez la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Vous pouvez aussi aller nous suivre sur Instagram au Histoire Sordide au pluriel, donc Histoire et Sordide avec un S. L'écriture, la narration et le montage sont faits par moi, Marie-Pierre, et la musique par Étienne Thibault.